Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 96, Daf Tzadik Vav. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara demande, Elak derot shel Mikdash, Amay Shavru, pourquoi faut-il briser les casseroles en argile qui se trouvent dans le sanctuaire, donc qui ont servi à faire cuire de la viande d'un sacrifice? Nehadrin ou l'équipe Shanot, on n'a qu'à les ramener dans les fours dans lesquels on fait cuire les pots en argile. Ce foyer est tellement chaud qu'on pourrait considérer que tout ce qu'elles ont absorbé a disparu. Donc, il ne devrait pas être nécessaire de les briser lorsqu'on y a fait cuire de la viande d'un sacrifice. Puisque, comme nous l'avons expliqué, la raison pour laquelle il faut briser les casseroles en argile, c'est parce que nous considérons qu'il est impossible de faire disparaître ce qu'elles ont absorbé, voire le Tosfot. Puisque c'est ainsi, s'il existe une solution, on devrait pouvoir se contenter de cette solution, donc de les faire réchauffer dans le four dans lequel on fait cuire les pots en argile, et ainsi ces casseroles devraient être permises. L'agma répond à Marabizera, les fiches en osin kipshanot Birushalayim, c'est parce qu'on ne fait pas de four dans lesquels on cuit l'argile dans la ville de Yerushalayim à cause de la fumée. Et puisqu'il est interdit de faire sortir ces casseroles de la ville de Yerushalayim, finalement, il n'y aura pas d'autre choix que de les briser. Amar Abaye, Vechiosin Aspatot Beazara, est-ce qu'il est permis de faire des poubelles dans la cour du sanctuaire parce qu'on brise les casseroles d'argile? Autrement dit, puisqu'il y a un commandement de faire disparaître ce que ces ustensiles d'argile ont absorbé, donc il faut soit les briser, bien qu'il soit interdit de faire des poubelles dans la cour du sanctuaire, il devrait pouvoir être permis aussi de faire des fours dans la ville de Yerushalayim, justement pour accomplir ce commandement de faire disparaître ce que ces casseroles d'argile ont absorbé. La Gemara répond, Ishtamit te, Abaye a oublié sur le moment lorsqu'il a posé cette question, Hadetane, nous lisons selon la Shitam Kubetset, Rav Shemaya Bekalnevo, la Braïta qu'a enseigné, rédigé Rav Shemaya dans la ville de Kalnevo. Shivre kli cheres nivlaim bimkomam, les bris d'ustensiles d'argile, donc qu'on brisait dans la cour du sanctuaire, étaient engloutis sur place. Il y avait donc un miracle. Nous ne considérons pas donc qu'en brisant ces casseroles d'argile, on fait des poubelles dans la cour du sanctuaire, car comme la Braïta le dit, que ces débris seront engloutis sur place. Par contre, il restera interdit de faire des fours qui servent à cuire les pots d'argile dans la ville de Yerushalayim à cause de la fumée. La Gemara demande, la had amar Rav Nachman amar Rabba Baravua, en ce qui concerne ce qu'a enseigné Rav Nachman au nom de Rabba Baravua, tanur shel mikdash shel materet hava, que le four qu'il y avait dans le sanctuaire était en métal. Nous avons compris dans le daf précédent que la raison pour laquelle il était en métal, pour qu'il soit possible de le frotter et de le laver avec de l'eau bouillante après avoir fait cuire des restes des offrandes à base de farine. Alors la question se pose, ni avid de cheres, on n'avait qu'à le faire en argile. Et même si on le faisait en argile, il n'était pas nécessaire de le briser, c'est comme bifnimu, car il est réchauffé de l'intérieur. Par conséquent, ce que ce four aurait absorbé disparaîtrait. L'agma répond, de kivan de ikash te alechem velechem apanim, puisqu'il y a les deux pains spéciaux offerts à Shavuot et les pains spéciaux qu'il fallait faire cuire chaque semaine pour les poser sur la table à l'intérieur du sanctuaire, des afiatan betanour, qui sont cuits dans le four qu'il y avait dans le sanctuaire, ou kdushatan betanour, et la sainteté spéciale du sacrifice leur vient aussi dans le four qui est considéré comme étant un ustensile, car pour chaque sacrifice ou ce qui est offert, il faut qu'il ait la sainteté spéciale du sacrifice lorsqu'il est mis dans un ustensile de service, et le seul ustensile de service dans lequel on mettra ces pains spéciaux sera le four. Donc c'est par ce four qu'ils auront cette sainteté particulière. Havale klisharet, le four aura donc le statut d'un ustensile de service, ou klisharet decheres lo avdinan, et on ne fait pas d'ustensile de service en argile. En effet, tous les ustensiles de service n'étaient qu'en métal.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Tzadeva Mamoud Bet. Vafilu Rabbi Yossi et Rabbi Yuda, et même Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yuda, qui a dit dans Maseret Souka qu'il est possible de faire des ustensiles de service en autre matériau. Loka Amar El Adetz, il n'a dit qu'on ne peut faire d'ustensiles de service qu'en bois. Aval de Kheres, mais en argile, l'eau, non. Il ne permettra pas de le faire, car le fer serait une dégradation pour le sanctuaire. Par conséquent, il n'y aura pas d'autre choix que de faire ce four en métal. Nous lisons selon la Shita Mekoubetset, Rav Yitzhak Bereh de Rav Yehuda, Hava Ragil Kameh de Rami Bar Chama, avait l'habitude de se présenter devant Rami Bar Chama pour étudier chez lui et lui poser des questions. Shavke, un jour il l'a délaissé vers Azil le Rav Shechet et il est parti étudier chez Rav Shechet. Yom Achad, un jour Pagabe, Rami Bar Chama, a rencontré Rav Yitzhak, fils de Rav Yehuda. À Marlé, il lui a dit un proverbe que disent les orgueils, « Al-Kafta Naktan, un duc m'a tenu la main, Recha Atelah Leyad, l'odeur ducale est venue dans mes mains. » Ce qui veut dire que les orgueilleux ont l'habitude de se coller aux personnalités pour avoir l'impression d'avoir eux aussi un peu de personnalité. À Marlé, Rav Yitzhak, fils de Rav Yehuda, lui a répondu, « Lav Mishumachi, ce n'est pas à cause de cela, donc ce n'est pas par orgueil que je t'ai quitté pour aller étudier chez Rav Shechet, mais plutôt Mar, mon maître, donc Rami Bar Chama, qui ba'ina milta, lorsque je lui pose une question, Pashit li misvara, il me répond en présentant un raisonnement logique, qui mashkachna matnita, lorsque je trouve une braïta qui réfute ce raisonnement, par hala, cette braïta réfute donc la réponse à la question que je lui ai posée. Tandis que Rav Shechet, qui ba'ina milta mine, lorsque je lui pose une question, pashit li mimatnita, il me répond en apportant une braïta. De chinami mashkachat matnita, ainsi, même si je trouve par la suite une braïta ou parcha et réfute la réponse qu'il m'a donnée, matnita ou matnitahi, je me trouve avec une contradiction entre des braïtot ou une discussion entre des tanaïm, mais la réponse de Rav Shechet peut être véridique. Amarle, alors Rami Bar Chama lui a dit, donc à Rav Yitzhak, fils de Rav Yehuda, Ba'e mini milta, pose-moi une question de ipshit lach ki matnita, que je te répondrai comme s'il y avait une braïta, c'est-à-dire si tu approfondis une braïta, tu trouveras une allusion à ma réponse et donc ce qui prouvera que j'ai raison. Bah, Aminé, il lui a posé la question suivante. Bichel Bemiksatkli, si il a cuit de la viande d'un sacrifice en n'utilisant qu'une partie d'un récipient, donc il n'a pas rempli entièrement la casserole, Taoun Merika ou Shtifa, est-ce que cette casserole a besoin d'être entièrement frottée et lavée, O en Taoun, ou bien est-ce qu'elle n'en a pas besoin, donc il n'est pas nécessaire de laver et de frotter entièrement l'ustensile, mais uniquement l'endroit qui a servi à la cuisson du sacrifice. Amarle, Rami Bar Chama lui a répondu, Eno Taoun, il n'est pas nécessaire de laver entièrement cet ustensile et de le frotter. Mide de ave ahazaa, de même que le sang d'un korban khatat qui a giclé sur un habit, comme nous l'avons vu précédemment dans une Mishnah, qu'il n'est nécessaire que de laver l'endroit de la tache et pas tout l'habit. Alors Rav Yitzhak Bar Yehuda lui a demandé Vehalo Tanahi, pourtant il n'y a aucune braïta qui dit cela. Donc finalement, la réponse que tu m'as donnée ne se trouve pas dans une braïta. Amarle, Rabbi Bar Chama lui a répondu, mais quand même, Mistabra, il est logique de dire Kebeged, que la loi qui consiste à frotter à laver les ustensiles qui ont servi à la cuisson d'un sacrifice ressemble à la loi du lavage de l'habit sur lequel a giclé le sang du Korban Khatat, puisqu'ils sont enseignés et rédigés dans le même paragraphe. Donc, nous arrivons à la conclusion suivante. Ma beged enotaun kibus elamakom adam. De même que l'habit ne nécessite le lavage que de l'endroit où le sang a giclé, donc uniquement l'endroit de la tache. Afkli, ainsi, l'ustensile qui a servi à la cuisson d'un sacrifice, enotaun merika ushtifa elabemakom bishul, ne nécessite le frottement et le lavage qu'à l'endroit où la cuisson a lieu, donc uniquement là où l'ustensile a servi à la cuisson et pas tout le reste. Amarle, Rav Yitzhak Bar Yehuda lui a demandé, Midami, est-ce que ces deux lois se ressemblent? Dam, l'homme fapea, le sang qui a giclé sur l'habit ne se propage pas dans tout l'habit. Bishul Mefapea, tandis qu'en ce qui concerne la cuisson de la viande du sacrifice, ce qui est absorbé par l'ustensile se propage dans tout l'ustensile. Veod, et en plus, Tania, il est enseigné clairement dans une braïta. Chomer Behaza'a Mimerika Ushtifa, il y a un côté plus strict dans la loi qui concerne au lavage de l'habit sur lequel le sang a giclé par rapport à la loi qui consiste à frotter et à laver l'ustensile qui a servi à la cuisson d'un sacrifice. Vechomer Bimrika Ushtifa Mibehaza'a, il existe un côté plus strict concernant la loi qui consiste à frotter et à laver l'ustensile qui a servi à la cuisson d'un sacrifice par rapport à celle concernant le lavage de l'habit sur lequel le sang du Korban Khatat a giclé. La braïta précise, Chomer Behaza'a, ce qu'il y a de plus strict en ce qui concerne la loi qui consiste à laver l'habit sur lequel le sang du Korban Khatat a giclé, Shehaza'a Yeshna Bechataot Achitsonot ou Bechatsaot Apnimiot, car cette loi qui consiste à laver l'habit sur lequel le sang du Korban Khatat a giclé existe, soit pour le sang d'un korban khatat dont le sang est aspergé à l'extérieur du sanctuaire, donc sur l'autel extérieur, soit pour le sang d'un korban khatat dont le sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire. Veyeshna lifnezrika, et cette loi existe avant l'aspersion du sang du sacrifice. En effet, c'est uniquement si le sang du korban khatat a giclé sur l'habit avant l'aspersion que celui-ci doit être lavé. Mashe enken bimrika ushtifa, ce qui n'est pas le cas pour la loi qui consiste à laver et à frotter les ustensiles qui ont servi à la cuisson des sacrifices. En effet, cette loi n'existe que pour les sacrifices destinés à être consommés, et puisque le korban khatat dont le sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire n'est pas destiné à être consommé par les kohanim, mais plutôt à être brûlé, finalement, les ustensiles qui ont servi à sa cuisson ne nécessitent pas d'être frottés et d'être lavés. Et pour la même raison, cette loi n'existera pas avant l'aspersion du sang du sacrifice, car avant l'aspersion du sang du sacrifice, il est interdit de consommer la viande de celui-ci. Chomer Bimrika Ushtifa, et c'est le côté le plus strict concernant la loi qui consiste à laver et à frotter les ustensiles qui ont servi à la cuisson des sacrifices. Shamrika Ushtifa Noheget Ben Bekotche Kodashim Ben Bekodashim Kalim, car cette loi qui consiste à laver et à frotter les ustensiles qui ont servi à la cuisson des sacrifices existe, soit pour les sacrifices d'une sainteté suprême, soit pour ceux d'une sainteté légère. Bichel bemiktsat kli taun mirika ushtifa kol hakli. Si il a utilisé pour la cuisson d'un sacrifice qu'une partie d'un ustensile, il est nécessaire de laver et de frotter tout l'ustensile. Machen ken be'azaha, ce qui n'est pas le cas pour la loi qui consiste à laver l'habit sur lequel le sang a giclé, qui ne concerne que le sang d'un korban khatat, comme nous l'avons vu précédemment, et aussi, seul l'endroit de la tache doit être lavé, et non pas le reste de l'habit. Amarle, Rabbi Barchama lui a répondu, donc Rabbi Yitzhak, fils de Rabbi Yuda, Itania, s'il est enseigné clairement dans une braïta qu'il est nécessaire de laver et de frotter tout l'ustensile qui a servi, même en partie, à la cuisson d'un sacrifice, Tania, alors j'accepte le fait que c'est enseigné dans une braïta. Alors, la Gemara demande, Vetaï Mamai, quelle est la raison? Pourquoi faut-il laver tout l'ustensile, même si seule une partie de celui-ci a servi à la cuisson d'un sacrifice? La Gemara répond, Amakra, parce que le Pasuk dit, dans Vaikravav, Ve'im Bichli Nechoshet Bouchala, et si la viande du sacrifice a été cuite dans un ustensile de cuivre, il faudra le frotter et le laver. Du fait que le Pasuk n'ajoute aucune précision, alors qu'il l'a fait concernant le lavage de l'habit sur lequel le sang du korban khatat a giclé, nous pouvons comprendre que ce que le pasouk veut dire, va filou bemiktat kli, même si le sacrifice a été cuit dans une partie de l'ustensile, il faudra le frotter et le laver. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, echad kotche kodashim, etc. Soit le sacrifice d'une sainteté suprême, soit celui d'une sainteté légère, est concerné par cette loi qui consiste à laver et frotter l'ustensile qui a servi à la cuisson du sacrifice. Tandis que selon Rabbi Shimon, cette loi ne concerne que le sacrifice d'une sainteté suprême et non pas ceux d'une sainteté légère. Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta. Khatat, nous avons appris de Sepsukim dans Vaikravav que cette loi qui consiste à laver et à frotter les ustensiles qui ont servi à la cuisson de la viande du sacrifice s'applique pour le Korban Khatat. En l'Ela Khatat, nous n'avons appris de ce pasouk que concernant le Korban Khatat, Kol Kodashim Minayin, tous les sacrifices, d'où sait-on qu'ils sont aussi concernés par cette loi? La Braïta répond, Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit, par la suite, tout mâle des Kohanim mangera ce Korban Khatat, Kodesh Kodashim Hi, c'est un sacrifice d'une sainteté suprême. Cette expression, donc qu'il s'agit d'un sacrifice d'une sainteté suprême, est en plus, nous l'appliquons sur le passouk précédent qui énonce cette loi qui consiste à laver à frotter l'ustensile qui a servi à la cuisson du sacrifice pour généraliser cette loi à tous les sacrifices car le passouk est interprété de la manière suivante. Il faut laver l'ustensile dans lequel on a cuit la viande du Korban Khatat car c'est un sacrifice d'une sainteté suprême et c'est pour cela donc qu'il faut laver et frotter l'ustensile qui a servi à sa cuisson. Nous verrons par la suite comment est-ce que nous incluons aussi les sacrifices d'une sainteté légère. Yachol Shani Marbet Atouma, on aurait pu penser qu'on inclut aussi la Touma, qui serait donc aussi concernée par cette loi, et il faudra donc laver et frotter l'ustensile qui a servi à la cuisson de la Touma, qui est le prélèvement destiné au Kohen. Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit, Ota, le Kohen la mangera, donc la viande du Korban Khatat. Cette précision, donc le terme Ota est en plus, nous l'appliquons aussi sur le passouk qui énonce la loi qui consiste à laver, à frotter l'ustensile qui a servi à la cuisson d'un sacrifice, pour dire donc que seulement elle, donc le Korban Khatat, est concernée par cette loi, prat le Touma, ce qui exclut la Touma, le prélèvement destiné au Kohen, qui ne sera donc pas concerné par cette loi. D'ivrei Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Kodshei Kodashim Teunin Merika Ushtifa, les sacrifices d'une sainteté suprême nécessitent qu'on lave et qu'on frotte les ustensiles qui ont servi à leur cuisson, Kodashim Kalim Enan Teunin Merika Ushtifa, tandis que les sacrifices d'une sainteté légère ne nécessitent pas qu'on lave et qu'on frotte les ustensiles qui ont servi à leur cuisson. Dirtiv, car le Passouk dit Kodesh Kodashim, c'est un sacrifice d'une sainteté suprême, c'est le Passouk que nous avons vu précédemment. Donc Rabbi Shimon interprète ce Passouk à la lettre, Kodesh Kodashim In, les sacrifices d'une sainteté suprême, oui, sont concernés par cette loi, Kodashim Kalim, mais les sacrifices d'une sainteté légère, l'eau, non, ne sont pas concernés par cette loi. Alors, la Gemara demande Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi et comment inclut-il aussi les sacrifices d'une sainteté légère? Alors, la Gemara répond, Mide itztarich ota lemiute touma, puisqu'on a besoin du terme de ota pour exclure la touma, donc le prélèvement destiné au Kohen, qui lui n'est pas concerné par cette loi, comme nous l'avons vu précédemment. Miklal de Kodashim Kalim Tounin Mirika Ushtifa, nous pouvons donc déduire de là que les sacrifices d'une sainteté légère nécessitent qu'on lave et qu'on frotte les ustensiles qui ont servi à leur cuisson. Car si même les sacrifices d'une sainteté légère n'étaient pas concernés par cette loi, nous n'aurions pas besoin de Passouk pour exclure la Touma, donc le prélèvement destiné au Kohen, dont la sainteté est encore moindre que le sacrifice d'une sainteté légère. Forcément donc, l'expression Kodesh Kodashim, qu'il s'agit d'un sacrifice d'une sainteté suprême, ne doit pas être pris à la lettre. Rabbi Shimon Amar Lecha, tandis que Rabbi Shimon te répondrait, Ota, le terme de Ota, Kede Amrinan, nous l'utilisons pour ce que nous avons dit. En effet, nous avons vu plus haut Daf Tzadeh Gimel que Rabbi Shimon utilise ce terme de Ota, et il l'applique donc sur le passouk précédent qui énonce la loi du lavage de l'habit sur lequel le sang du Korban Khatat a giclé. Et il apprend de ce terme Ota que cette loi ne concerne que le sang d'un sacrifice valable, mais s'il est invalidé, il est exclu. Par conséquent, nous pouvons interpréter l'expression Kodesh Kodashim à la lettre et d'en inclure dans cette loi qui consiste à laver et à frotter les ustensiles qui ont servi à la cuisson de la viande d'un sacrifice, que le sacrifice d'une sainteté suprême et non pas ceux d'une sainteté légère. Alors la Gemara demande « Utruma lobaya shtifa umrika » Est-ce que la Truma, donc le prélèvement destiné au Kohen, ne nécessite pas qu'on frotte et qu'on lave les ustensiles qui ont servi à sa cuisson? Vatania, pourtant, il est enseigné dans une braïta « Kdera shebishelbah basar » Une casserole dans laquelle il a cuit de la viande « Loevashelbah khalav » Il n'a pas le droit d'y cuire du lait. Ve imbichel, et s'il a cuit du lait dans une casserole qui a servi à cuire de la viande, benoten tam, cela dépendra si dans le lait il y a un goût de viande ou non. Donc s'il y a 60 fois plus de lait que la quantité de viande absorbée par cette casserole, le lait sera permis, sinon il sera interdit. Nous lisons selon la Shittam Kubetset, Bichel Bah Truma, s'il a cuit dans cette casserole de la Truma, donc le prélèvement destiné au Kohen, Loevachel Bah Hulin, il n'aura pas le droit d'y cuire de la nourriture profane destinée à une personne qui n'est pas Kohen, Vim Bichel, et s'il a cuit de la nourriture profane dans cette casserole qui a servi à la cuisson de la Truma, Benoten Tam, cela dépendra du goût. Si dans cette nourriture profane, il y a le goût de la Truma, cette nourriture sera interdite à un profane qui n'est pas Kohen, sinon elle sera permise. En tout cas, nous voyons qu'un ustensile qui a servi à la cuisson de la Truma, il est interdit de s'en servir pour de la nourriture profane, à moins qu'on fasse sortir des parois de cette casserole la Truma qu'elle a absorbée, ce qui se fera en les bouillantant. La Gemara a compris que cette mitzvah qui consiste à laver, à frotter l'ustensile qui a servi à la cuisson du sacrifice est aussi l'ébouillantage de cet ustensile. La Gemara répond à Amar Abaye, l'otzricha, nous n'avons besoin de cet enseignement qui exclut cette Truma, donc le prélèvement destiné au Kohen, de ce commandement qui consiste à laver, à frotter l'ustensile qui a servi à la cuisson du sacrifice. Et là, l'aide à Mahamar, uniquement pour ce qui a été dit ailleurs, Bichel Bemitsatkli, s'il a cuit de la viande à sacrifice dans une partie de l'ustensile, donc il ne s'est servi que d'une partie de l'ustensile pour cette cuisson, Taoun Merika Ushtifa Kolakli, il est nécessaire de laver et de frotter tout l'ustensile. Ceci s'applique uniquement là où ce commandement est exigé, donc uniquement pour la viande d'un sacrifice, Hatuma, mais en ce qui concerne la Truma, qui est le prélèvement destiné au Kohen, Lotzarich et la Makombishul, il n'est nécessaire de l'ébouillanter qu'à l'endroit de la cuisson, mais le reste de l'ustensile de cette casserole n'a pas besoin d'être ébouillanté. Rava Amar, Lotzricha et la Dea Marmar, nous avons besoin de cet enseignement uniquement pour ce qui a été dit ailleurs par la suite. Bamaim, lorsque le pasouk dit qu'il faut laver et frotter l'ustensile qui a servi à la cuisson d'un sacrifice, il faut le laver dans l'eau. Velo Bayaïn, nous apprenons de là, et non pas avec du vin. Bamaim, lorsque le pasouk dit dans l'eau, donc toujours dans le même pasouk, Velo Bemazoug, on ne peut pas laver et frotter cet ustensile avec du vin coupé avec de l'eau. Donc ceci ne s'applique que pour cette loi qui consiste à laver et frotter les ustensiles qui ont servi à la cuisson de la viande à sacrifice. Ah, mais ici, en ce qui concerne la Truma, à filou beyaïn va filou bemazoug, on peut les bouillanter même avec du vin ou même avec du vin coupé avec de l'eau. Ceci suffira pour considérer qu'on a fait sortir toute la Truma qui a été absorbée par cette casserole. Il sera donc permis de l'utiliser pour la cuisson de la nourriture profane. Rava Baroula Amar, l'otricha, nous n'avons besoin de cet enseignement qui exclut la Truma de cette mitzvah qui consiste à laver, à frotter l'ustensile qui a servi à la cuisson de la viande du sacrifice. Et là, l'aider à Mamar, uniquement pour ce qui a été dit ailleurs, que Merika ou Shtifa Betsonen, le lavage et le frottage de cet ustensile, c'est avec l'eau froide. C'est-à-dire, selon cet avis, il faut laver et frotter l'ustensile avec de l'eau froide après l'avoir ébouillanté. Ceci donc ne concerne que l'ustensile qui a servi à la cuisson de la viande à sacrifice. Ha! Mais cela donc, l'ustensile qui a servi à la cuisson de la Truma, à Filou Bechamin, on peut se contenter de l'ébouillanter uniquement avec de l'eau chaude. Il n'est pas nécessaire de le laver ensuite avec de l'eau froide. La Gemara demande, Ha Nicha le Mandamar, ceci est bien selon l'avis qui dit Merika Ushtifa Betsonen, que le lavage et le frottage de l'ustensile se fait avec de l'eau froide après avoir été ébouillanté. Et là, le Mandamar, Merika Bechamin Ushtifa Betsonen, mais selon l'avis qui dit que le terme Merika veut dire l'ébouillantage avec l'eau chaude et le terme Shtifa veut dire rincer avec l'eau froide, Maika le Memar, que pourra-t-on dire? C'est-à-dire, quelle différence y aura-t-il entre l'ustensile qui a servi à la cuisson de la viande du sacrifice et celui qui a servi à la cuisson de la Truma? Puisque finalement, il faut les ébouillanter tous les deux. Ils nécessitent tous les deux donc ce que le pasouk appelle Merika. L'agma répond, Shtifa Yeterta. La différence entre l'ustensile qui a servi à la cuisson de la viande de sacrifice et celui qui a servi à la cuisson de la Truma, c'est le rinçage supplémentaire avec l'eau froide. C'est-à-dire, même si il faut appliquer ce que le pasouk appelle merika pour tous les deux ustensiles, donc le fait de les bouillanter avec l'eau chaude, mais pour la trouma, il ne sera pas nécessaire de rincer l'ustensile qui a servi à sa cuisson avec de l'eau froide après avoir été bouillanté. Et c'est donc cela la différence entre les deux ustensiles. Nous avons fini sur le shiur de Masechet Zvachim Daf Tzadevav.
Nous commençons le shiur de Masechet Zvachim Daf Tzadezaim. Nous commençons Daf Tzadevav Amudbet au milieu de la troisième ligne du bas de la page à la Mishnah. Alors la Mishnah dit, Rabbi Tarfon Omer, Bichel Mitrilat Haregel, s'il a cuit de la viande d'un sacrifice dans une casserole à partir du début de la fête, qui dure plusieurs jours, Yevachel Bo Kol Haregel, il peut cuire dans cette casserole de la viande des sacrifices pendant toute la fête et effectuer ce commandement de frotter et de laver l'ustensile à l'issue de la fête. Bachachamim Omrim, Adzman Achila, il peut cuire dans cette casserole jusqu'à ce que se termine le temps prévu pour la consommation du premier sacrifice qu'il a cuit dedans, puis après, il devra le frotter et le laver. Merika ou Shtifa, le fait de frotter et de laver, en quoi cela consiste? Alors la Mishnah explique, Merika, le terme de Merika veut dire Kemrika Takos, comme on frotte un verre avant de l'utiliser, c'est-à-dire on le lave et on le frotte à l'intérieur. Ou Shtifa, et le terme de Shtifa, Keshtifa Takos, comme on rince un verre, c'est-à-dire on le rince de l'extérieur. Merika ou Shtifa Betsonen, et le frottage et le lavage, c'est avec de l'eau froide.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.